Rachel continuait d'être heureuse, insouciante et active, à peine désorientée par les contradictions qui s'offraient à elle chaque matin quand elle se réveillait. À mesure qu'elle rajeunissait, il devenait de plus en plus facile de lui trouver une explication pour les changements qui lui semblaient s'être produits du jour au lendemain. Pourquoi le vieil orme devant la maison avait disparu? Pourquoi la demeure de style colonial du voisin Ashnesbeat avait été remplacée par un immeuble? Pourquoi ses amis ne venaient pas la voir? Seul comprit alors, plus que jamais, à quel point l'esprit d'un enfant était flexible. Il imaginait maintenant Rachel chevauchant la crête de l'énorme vague du temps, incapable de voir les sombres profondeurs de l'océan sous elle, gardant son équilibre grâce à ses maigres réserves de souvenirs et à son engagement total dans les 12 ou 15 heures de temps présent qui lui étaient dévolues chaque jour. Ni Sol ni Sarai ne désiraient que leur fille fût tenue à l'écart des autres enfants, mais il était difficile d'établir et de maintenir un contact. Rachel était toujours ravie d'aller jouer avec la nouvelle ou le nouveau du quartier, enfants d'enseignants de l'université, voire petits-enfants de leurs amis, ou même, pendant un moment, la propre fille de Nikki. C'étaient les autres qui devaient s'habituer à se voir approcher chaque jour comme des inconnus, et peu d'entre eux avaient le goût de poursuivre des relations aussi déroutantes avec une compagne de jeu qui les oubliait régulièrement. L'histoire de la petite fille et de sa maladie très particulière n'était plus, naturellement, un secret pour personne à Crawford. Toute l'université était au courant dès la première année du retour de Rachel, et bientôt toute la ville le sut. Les habitants de Crawford réagirent comme il en a toujours été dans toute petite ville qui se respecte. Certaines langues ne cessaient de s'agiter pour se lamenter du malheur des autres, d'autres ne pouvaient cacher leur plaisir, mais dans l'ensemble, la petite communauté serra les coudes autour de la famille Weintraub et les abrita sous son aile comme une mère poule protégeant maladroitement ses poussins. Tant bien que mal, ils continuaient de mener une existence à peu près normale, même lorsque Sol fut obligé de prendre sa retraite de manière anticipée pour mieux pouvoir se consacrer au voyage qu'il faisait toujours à la recherche d'un traitement pour Rachel. À l'université, personne ne fit jamais allusion aux véritables raisons de son départ. C'était trop beau pour durer, naturellement. Un matin de printemps, lorsque Sol sortit sur le pas de sa porte et vit sa petite fille de 7 ans revenir en larmes du jardin public, entourée et suivie d'une horde de médiatiques aux implants caméras brillants et aux persocs tendus, il comprit qu'une phase de leur vie venait de prendre fin à jamais. Il courut vers Rachel pour la saisir dans ses bras.
« Ashweintraub, est-il vrai que votre fille ait attrapé une maladie du temps incurable? Que va-t-il se passer dans 7 ans? Est-ce qu'elle guérira d'un coup ?» Ashweintraub, Ashweintraub, Rachel nous dit qu'elle pense que Rabendowell est président et que nous sommes en 2711. Ses 34 ans sont-ils complètement perdus pour elle ou bien s'agit-il d'une illusion causée par la maladie de Merlin? Rachel, est-ce que tu te souviens d'avoir été une femme adulte? Quel effet ça te fait d'être devenue enfant? Ashweintraub, Ashweintraub, juste une photo s'il vous plaît. Que diriez-vous de tenir à la main une photo de Rachel plus âgée et de poser avec la gosse? Ashweintraub, est-il vrai que Rachel soit sous le coup de la malédiction des tombeaux du temps? Est-ce qu'elle a vu le Gritch? Hey, Weintraub! Sol! Hey, Soli! Qu'est-ce que vous allez faire, vous et votre petite dame, lorsque la gamine aura disparu?
L'un des médiatiques bloquait à Sol l'accès à sa porte d'entrée. Il se pencha en avant et les lentilles stéréo de ses yeux s'allongèrent tandis qu'il zoomait pour faire un gros plan de Rachel. Sol la grippa par les cheveux, opportunément réunis en queue de cheval, et l'écarta violemment. La meute hurla devant leur maison durant 7 semaines. Sol comprit ce qu'il avait su jadis, puis oublié. Les petites communautés étaient fréquemment ennuyeuses, toujours désagréablement empreintes d'esprit paroissial, souvent insupportablement indiscrètes dans les relations de personne à personne, mais elles n'étaient jamais tombées dans les travers vicieux hérités d'un prétendu droit du public à l'information. C'était le cas du Retz. Plutôt que de voir sa famille assiégée de manière permanente par les médias en folie, Sol décida de passer lui-même à l'offensive. Il s'arrangea pour donner des interviews sur les chaînes d'information d'Istrance les plus regardées, participa à des débats de l'Assemblée de la Pangermie et assista personnellement au grand symposium du Confluent sur la recherche médicale. En l'espace de 10 mois standard, il put ainsi réclamer de l'aide pour sa fille sur 80 planètes. Les propositions affluèrent de 10 000 sources variées, mais le gros des réponses émanait de guérisseurs, de promoteurs immobiliers, d'instituts privés de toutes sortes et de chercheurs isolés offrant leurs services en échange d'un peu de publicité. Les adeptes de l'église Grytchtek ou d'autres cultes apocalyptiques soutenaient que Rachel devait faire face à un châtiment mérité. Certaines firmes de publicité offraient à Rachel de patronner une marque et de nombreux agents proposaient de gérer les rapports de la petite fille avec ces firmes. Le bon peuple offrait sa sympathie, souvent accompagnée d'une petite offrande pécuniaire. Les scientifiques faisaient part de leur scepticisme, les producteurs de Holo et les éditeurs voulaient acheter les droits exclusifs d'une biographie de Rachel. L'université de Reichs constitua un secrétariat spécialement chargé de trier les différentes propositions en fonction de l'utilité qu'elles pourraient avoir pour Rachel. La plupart des messages furent rejetés. Quelques offres de médecins ou de chercheurs furent mises de côté pour examen plus approfondi. Finalement, aucune voie ne semblait se présenter qui n'eût déjà été essayée par Reichs ou par Sol. Un message distant s'attira cependant l'attention de ce dernier. Il provenait de l'administrateur du kibbutz Kfar Shalom d'Hébron et disait simplement « Si c'est trop dur à supporter, venez ». Cela devint rapidement insupportable en effet. Au bout de quelques mois de battage médiatique, le siège sembla sur le point d'être levé, mais il ne s'agissait en réalité que du prélude du second acte. La presse télécopiée surnommait maintenant Sol le Juif errant et le présentait comme un père désespéré voyageant de planète en planète à la recherche d'un remède à la curieuse maladie de sa fille. Appellation pleine d'ironie, dans la mesure où Sol avait toujours détesté les voyages. Sarai, évidemment, était la mère éplorée. Rachel était l'enfant marqué par le destin ou, dans un titre particulièrement inspiré, la victime virginale de la malédiction des tombeaux du temps. Aucun membre de la famille ne pouvait espérer sortir sans trouver un médiatique ou un imageur quelconque dissimulé derrière un arbre du voisinage. Crawford s'aperçut vite qu'il y avait de l'argent à tirer de l'infortune des Weintraub. Au début, la petite ville avait gardé sa dignité, mais lorsque des entreprises de Bussard vinrent installer leurs boutiques de t-shirts et de souvenirs, leurs animations automatiques et leurs visites guidées pour les touristes de plus en plus nombreux, les commerçants locaux commencèrent par s'agiter, par hésiter, puis décidèrent à l'unanimité que s'il y avait des affaires à faire, il n'était pas question que les bénéfices aillent à des gens de l'extérieur. Après 438 années standards de tranquillité relative, la petite ville de Crawford s'équipa d'un Terminex Distrans. Ainsi, les visiteurs n'eurent plus à supporter les 20 minutes de vol à partir de Bussard. La foule des touristes grossit encore. Le jour où ils déménagèrent, il pleuvait à verse. Les rues étaient désertes. Rachel ne pleura pas, mais ses grands yeux demeurèrent brillants toute la journée. Elle ne s'exprimait qu'à mi-voix. Dans 10 jours, elle fêterait son 6e anniversaire. « Pourquoi est-ce que nous devons changer de maison, papa ?»« Il le faut, ma chérie. »« Mais pourquoi ?»« Nous ne pouvons pas faire autrement, ma petite fille. »« Tu verras qu'Hébron te plaira. » Il y a beaucoup de jardins là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas prévenu avant? Nous t'en avons parlé, ma colombe. Tu as dû l'oublier. Et papy, et mamie, et l'oncle Richard, la tante Teta, l'oncle Saul, et tous les autres. Ils pourront venir nous voir quand ils voudront. Et Nicky, et Lina, et tous mes amis. Sol ne répondit pas. Il transporta le reste des bagages dans le VEM. La maison était vide, déjà vendue. Les meubles avaient été vendus ou transportés sur Hébron. Durant toute la dernière semaine, il y avait eu un flot continu de visites d'amis, de parents et de collègues. Même certains membres de l'équipe soignante de Reichs, qui s'occupaient de Rachel depuis 18 ans, étaient venus leur dire adieu. Mais aujourd'hui, la rue était déserte. La pluie ruisselait sur la verrière en perspex du vieux VEM, formant des arabesques complexes. Ils demeurèrent tous les trois un bon moment immobiles, contemplant leur maison, à l'intérieur du véhicule qui sentait la laine et les cheveux mouillés. Rachel serrait très fort dans ses bras l'ours en peluche que Sarai avait repêché du grenier 6 mois plus tôt.
« Ce n'est pas juste, »
dit-elle. « C'est vrai, » reconnut Sol. « Ce n'est pas juste, ma petite fille. » Hébron était un monde de désert. 4 siècles de terraformation en avaient rendu l'atmosphère respirable et avait permis la culture de quelques millions d'hectares de sol. Les êtres vivants qui le peuplaient, avant la colonisation, étaient minuscules, coriaces et infiniment rusés, ce en quoi ils ne cédaient en rien aux créatures importées de l'ancienne terre, race humaine y comprise.
« Oh !»
fit Sol le jour où ils arrivèrent dans le village de Dan, au-dessus du kibboutz de Kfar Shalom, écrasé de soleil.
« Nous sommes vraiment des masochistes, nous les Juifs. 20 000 mondes recensés s'offraient à nous au début de l'Égir, et c'est celui-là que ces schmucks ont choisi !»
Mais ce n'était pas tout à fait par masochisme que Sol et les siens, tout comme les premiers colons, avaient choisi Hébron. Si la planète était principalement un désert, ses régions fertiles étaient d'une richesse presque effrayante. L'université du Sinaï était respectée dans tout le Retz, et son centre médical attirait des curistes fortunés qui constituaient une source de revenus non négligeable pour la communauté. Hébron disposait d'un seul terminex d'Istrance, situé à la Nouvelle-Jérusalem, et interdisait d'en ouvrir d'autres. N'étant membre ni de l'hégémonie, ni du protectorat, elle pouvait taxer lourdement ceux qui faisaient usage de ses installations d'Istrance et se permettre de limiter les déplacements des touristes à la Nouvelle-Jérusalem. Pour un juif à la recherche d'un peu de tranquillité, c'était peut-être le plus sûr des 300 mondes foulés par le pied de l'homme. Le kibboutz vivait sur un mode communautaire, plus par tradition que par nécessité économique réelle. Les Weintraub se virent attribuer une maison modeste en pisé, avec plus de courbes que d'angles droits et des planchers de bois rustiques. Mais ils avaient une magnifique vue sur le désert infini au-delà des orangers et des oliveraies. Le soleil ardent semblait tout dessécher, se disait Sol, même les soucis et les mauvais rêves. La lumière était épaisse au point d'être presque tangible. Le soir, leur maison luisait d'une lumière rose durant une bonne heure après le coucher du soleil. Chaque matin, Sol venait s'asseoir au bord du lit de sa fille jusqu'à ce qu'elle s'éveille. Les premières minutes de confusion lui étaient particulièrement pénibles, mais il tenait à être la première chose sur laquelle Rachel posait les yeux. Il la serrait contre lui lorsqu'elle posait ses questions.
« Où sommes-nous, papa ?»«
Dans un endroit merveilleux, ma colombe. Je t'expliquerai tout cela pendant que nous déjeunerons. »«
Comment sommes-nous arrivés ici ?»«
Par distance, par voie désert et un peu à pied. » Ce n'est pas tellement loin, mais assez loin pour en faire une aventure merveilleuse.
Mais c'est mon lit, mes animaux en peluche. Pourquoi est-ce que je ne me rappelle pas comment nous sommes arrivés ici ?
Sol la prenait alors doucement par les épaules et la regardait dans les yeux.
Tu as eu un léger accident, Rachel. Tu te souviens dans l'histoire du crapaud qui avait le mal du pays, quand Terence se cogne la tête et oublie pendant quelques jours dans quel endroit il se trouve ? C'est un peu cela qui t'est arrivé.
Et je vais mieux maintenant ?
Oui, ma chérie, tu vas beaucoup mieux.
L'odeur du petit déjeuner montait alors jusqu'à eux et ils sortaient sur la terrasse où Sarai les attendait. Rachel n'avait jamais eu autant de compagnons de jeu. Le kibboutz possédait une école où elle était toujours la bienvenue. Chaque fois qu'elle voulait y aller, les enfants l'accueillaient comme si c'était la première fois. L'après-midi, elle jouait avec eux dans les vergers ou le long des falaises. Avner, Robert et Ephraïm, les anciens du conseil, encourageaient Sol à travailler à son livre. Hébron se flattait de donner asile, en tant que citoyen ou résident à long terme, à un très grand nombre d'érudits, artistes, compositeurs, musiciens, philosophes et écrivains en tout genre. La maison, disait-il, était un cadeau de l'État. La pension de Sol, bien que modeste selon les critères du Retz, était plus que suffisante pour faire face à leurs besoins ici. À sa grande surprise cependant, Sol s'aperçut que le labeur physique ne lui déplaisait pas. Il découvrit que tout en soignant les orangers, en ôtant les pierres d'un champ laissé à l'abandon ou en réparant un mur sur les hauteurs du village, il avait l'esprit plus libre pour penser que depuis de nombreuses années. Il pouvait rivaliser avec Kierkegaard en attendant que le mortier prenne, ou trouver de nouveaux angles pour expliquer la pensée de Kant ou celle de Vandeur, en examinant soigneusement les pommes pour voir si elles n'étaient pas véreuses. À l'âge de 73 ans, Sol eut ses premiers cales aux mains. Le soir, il jouait un peu avec Rachel, puis faisait une promenade à pied avec Sarai dans les collines, tandis que Judith ou une autre fille du voisinage surveillait leur enfant endormi. Un week-end, ils allèrent à la Nouvelle-Jérusalem, juste Sarai et lui, seuls pour la première fois depuis que Rachel était revenue vivre avec eux, 17 années standard auparavant. Tout était loin d'être idyllique cependant. Trop fréquentes étaient les nuits où Sol se réveillait tout seul dans le lit et marchait, sur la pointe des pieds, jusqu'à la chambre de Rachel, pour voir Sarai penchée au-dessus du lit où dormait l'enfant. Souvent, à la fin d'une longue journée, tandis qu'il lui donnait son bain dans la vieille baignoire de céramique ou qu'il l'abordait dans sa chambre au mur baigné d'une lumière rosée, la petite fille lui disait « J'aime bien être ici, papa, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer à la maison demain ?» Et Sol se contentait de hocher la tête. Après une dernière histoire dans son lit, après la berceuse et le dernier baiser, quand il était sûr qu'elle dormait, il sortait de la chambre à reculons sur la pointe des pieds pour entendre, étouffé par les couvertures, un ultime «
Salut, poilu !»
auquel il se devait de répondre par le traditionnel « À plus tard, tête de lard !» Puis, s'étant lui-même glissé dans son lit, à côté de la forme probablement endormie, à en juger par sa respiration paisible, de la femme qu'il aimait, il contemplait les rayons de lumière pâle de l'une des deux petites lunes d'Hébron, ou peut-être des deux, qui se déplaçaient sur les murs de Pisée. Et il parlait à Dieu. Sol parlait à Dieu depuis des mois, avant de prendre véritablement conscience de ce qu'il faisait. Cette idée l'amusait. Les entretiens n'étaient nullement des prières, mais prenaient la forme de monologues furieux, juste à la limite de la diatribe, qui devenaient de vigoureuses altercations avec lui-même. Mais peut-être pas seulement cela. Il s'avisa en effet un jour que les sujets de ces débats très mouvementés étaient si profonds, les enjeux si sérieux et les champs de discussion si vastes, que le seul être à qui il pouvait véritablement s'en prendre pour toutes ses déficiences était Dieu lui-même. Mais comme le concept d'un Dieu personnel, ne dormant pas la nuit, penché sur les problèmes des hommes, lui avait toujours paru totalement absurde, la simple pensée de ces conversations le faisait douter de sa propre santé mentale. Cependant, les entretiens continuaient. Sol aurait voulu savoir comment toute une éthique, et à plus forte raison une religion assez indomptable pour avoir survécu à tous les maux que l'humanité avait pu accumuler sur elle, pouvait découler d'une injonction divine à un père d'assassiner son fils. Sol ne tenait pas compte du fait que le commandement avait été annulé à la dernière seconde. Il refusait de considérer qu'il s'agissait d'un test d'obéissance. En fait, l'idée même que c'était son obéissance qui avait fait d'Abraham le père de toutes les tribus d'Israël le mettait dans une colère noire. Après avoir consacré 55 années de sa vie à l'étude des systèmes éthiques, Sol Weintraub en était arrivé à une conclusion unique et inébranlable. Pour lui, toute allégeance à une divinité ou bien à un concept ou encore à un principe universel qui plaçait l'obéissance avant un comportement décent face à une créature humaine innocente était nécessairement mauvaise. « Et comment définis-tu donc l'innocence ?» lui demanda la voix vaguement amusée et un peu agacée qu'il associa à ces discussions. « Un enfant est toujours innocent, » répliqua Sol. « Isaac était innocent. Rachel l'est aussi. » Le simple fait d'être enfant la rend innocente? Oui. Et il n'existe pas de situation dans laquelle le sang des innocents doit être versé pour une cause plus large. Non. Mais je suppose que l'innocence n'est pas l'apanage des enfants. Sol hésita, redoutant un piège, essayant de deviner où son interlocuteur subconscient voulait l'entraîner. Mais il ne trouva rien. Non, répondit-il. Il n'y a pas que les enfants qui soient innocents. Par exemple, Rachel, à l'âge de 24 ans, et quel que soit son âge, un innocent ne peut être sacrifié? C'est exact. C'est peut-être là une partie de la leçon qu'Abraham avait besoin d'apprendre avant d'être le père de la plus bénie d'entre toutes les nations de la terre. Quelle leçon? Demanda Sol. Quelle leçon? Mais la voix dans sa tête avait disparu, et il n'entendait plus que les cris des oiseaux de nuit à l'extérieur, et la respiration lente et rythmée de Sarai à côté de lui. Rachel savait encore lire à l'âge de 5 ans. Sol avait du mal à se rappeler à quel moment elle avait appris. Il lui semblait qu'elle avait toujours su. « À 4 ans, lui dit Sarai. C'était le début de l'été, 3 mois après son anniversaire.
Nous étions en train de pique-niquer dans la prairie sur les hauteurs de l'université. Rachel feuilletait un livre, Winnie l'ourson, et tout à coup elle nous a dit « J'entends une voix dans ma tête ».
Sol se souvenait maintenant. Il se souvenait également de la joie que Sarai et lui avaient éprouvée devant les progrès étonnants de Rachel pour son âge. Il l'oubliait d'autant moins qu'il se trouvait actuellement confronté au processus inverse.
« Papa ?»
demanda Rachel, allongée par terre dans son bureau, laborieusement occupée à colorier un album.
« C'était il y a combien de jours l'anniversaire de maman ?»«
C'était lundi, » répondit distraitement Sol, plongé dans la lecture de son livre. L'anniversaire de Sarai n'était pas encore passé, mais Rachel s'en souvenait.
« Je sais bien, » répondit Rachel, « mais je te demande combien de jours ?»«
Nous sommes jeudi, » fit Sol. Il était en train de lire un long traité talmudique sur l'obéissance.
« Je le sais aussi !» s'impatienta Rachel. « Mais ça fait combien de jours ?»
Sol posa son livre sur le bureau. « Tu connais les jours de la semaine. » Le monde de Barnard, au contraire d'Hébron, utilisait l'ancien calendrier.
« Bien sûr !» répondit fièrement Rachel. « Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. »
« Tu as déjà dit samedi. »
« D'accord. Mais combien de jours ?»«
Sais-tu compter de lundi à jeudi ?» Rachel fronça les sourcils, remua les lèvres, recommença, essaya de compter sur ses doigts.
« 4 jours ?»«
Très bien, » lui dit Sol. « Peux-tu me dire à combien est égal 4 ôté de 10, ma chérie ?»«
Qu'est-ce que ça veut dire, ôté ?»
Sol se força à replonger le nez dans son traité. « Ce n'est pas grave, » dit-il. « Tu apprendras bientôt cela à l'école. »«
Quand on rentrera à la maison ?»«
Oui. » Un matin, après que Rachel fut sortie avec Judith pour jouer avec les autres enfants, elle était maintenant trop jeune pour continuer d'aller à l'école, Sarai dit à Sol,
« Il faut que nous la conduisions sur Hyperion. »«
Hein ?» demanda-t-il en ouvrant de grands yeux.
« Tu as entendu ce que j'ai dit. » Nous ne devons pas attendre qu'elle soit trop jeune pour marcher ou parler. Nous-mêmes, nous ne rajeunissons pas. Je sais que cela peut paraître étrange, n'est-ce pas ?
ajouta-t-elle avec un rire un peu jaune.
Mais nous vieillissons vite, et le traitement Poulsen n'aura plus aucun effet sur nous d'ici 1 an ou 2. Sarai, aurais-tu oublié ce que nous ont dit les médecins ? Rachel ne survivrait pas à une nouvelle fugue cryotechnique. Et il est impossible d'affronter un voyage supraliminique sans être en état de fugue.
L'effet Hawking peut provoquer la folie, ou pis.
Peu importe, dit Sarai. Il faut que Rachel retourne sur Hyperion.
Comment peux-tu donc parler ainsi ?
Demanda Sol furieux. Elle lui saisit la main.
Crois-tu être le seul à faire ses rêves ?
Ses rêves ? Balbutia-t-il. Elle soupira et retourna s'asseoir devant la table blanche de la cuisine. La lumière du matin tombait sur les plantes du rebord de la fenêtre comme la lueur jaune d'un projecteur.
« Cet endroit sombre, » dit-elle. « Ces 2 petites lumières rouges. La voix qui nous ordonne d'aller sur Hyperion pour offrir un sacrifice. »
Sol passa le bout de sa langue sur ses lèvres sèches. Son cœur battait à coups redoublés.
« Quel est le nom qui a été prononcé ?»
demanda-t-il. Sarai lui lança un regard étrange.
Nos 2 noms ? Si tu n'avais pas été là, dans le rêve, avec moi, je n'aurais jamais pu le supporter pendant toutes ces années.
Il se laissa tomber sur une chaise. Puis il regarda ses mains et ses avant-bras posés sur la table, comme si c'était ceux d'un étranger. Les articulations des doigts commençaient à s'élargir sous les effets de l'arthrose. Les veines des avant-bras ressortaient fortement et les taches hépatiques étaient nombreuses. Mais c'était ses mains et ses bras, naturellement.
« Tu ne m'en as jamais parlé, »
murmura-t-il.
« Tu ne m'as jamais dit un mot de... »
Cette fois-ci, le rire de Sarai fut totalement dépourvu d'amertume.
« Comme si c'était nécessaire. Combien de fois ne nous sommes-nous pas réveillés tous les deux dans le noir ? Tu étais couvert de sueur. Dès le début, j'ai su que ce n'était pas seulement un rêve. Il faut y aller seul. Il faut aller sur Hyperion. »
Il retourna la main qu'il regardait et qui lui semblait toujours appartenir à quelqu'un d'autre.
« Pourquoi, Sarai ?» pour l'amour de Dieu ? Pourquoi ? Tu sais très bien que nous ne pouvons pas sacrifier Rachel.
Bien sûr que non. Comment n'y as-tu pas pensé ? Il faut que nous allions sur Hyperion, là où le rêve nous demandera d'aller, pour nous offrir en sacrifice à sa place.
Nous offrir en sacrifice à sa place, répéta Sol.
Il se demandait si son cœur n'allait pas lâcher. Il avait terriblement mal dans la poitrine. Il n'arrivait plus à respirer. Il demeura silencieux durant une bonne minute, convaincu que s'il essayait de prononcer un mot, seul un sanglot sortirait de sa gorge. Finalement, il réussit à demander
« Depuis combien de temps as-tu cette idée dans la tête, Sarai ?
Tu veux dire, depuis combien de temps je sais ce qu'il nous reste à faire ? Un peu plus d'un an ? Depuis le 5e anniversaire de Rachel.
Un an ? Et tu ne m'as rien dit pendant tout ce temps ?
J'attendais que tu te décides ? Que l'idée te vienne toute seule ? »
Il secoua la tête. Tout semblait tellement lointain autour de lui. Même les murs étaient légèrement déformés.
« C'est impossible, » dit-il. « Cela semble... Je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse, Sarai. »
Il regarda la main d'un étranger qui caressait les cheveux familiers de Sarai. Elle hocha lentement la tête. Seul, alla passer 3 jours et 3 nuits dans les montagnes arides, ne se nourrissant que du pain dur qu'il avait emporté et buvant l'eau de son thermos à condensation. 10 000 fois au cours des 20 dernières années, il avait souhaité de tout son cœur avoir la maladie de Rachel à sa place. Si quelqu'un devait souffrir, que ce soit le père et non l'enfant. Mais tous les parents devaient réagir ainsi. Chaque fois que leur enfant était blessé ou gisait terrassé par la fièvre, c'était ce qu'il devait se dire. Mais cela ne pouvait être aussi simple. Dans la chaleur torride du 3e après-midi, alors qu'il s'était à moitié endormi à l'ombre d'une mince table rocheuse, Sol apprit que cela n'était effectivement pas aussi simple.
Abraham pouvait-il répondre cela à Dieu ? Qu'il se proposait en sacrifice à la place d'Isaac ? Abraham aurait pu répondre cela, mais pas toi. Et pourquoi pas moi ?
Comme en réponse, Sol eut une vision fébrile d'adultes nus encadrés d'hommes en armes, faisant la queue devant des fours crématoires, et de mères cachant leurs bébés sous des piles de vêtements. Il vit des hommes et des femmes dont la chair brûlée pendait en lambeaux, éloignant leurs enfants inanimés des cendres de ce qui avait été une grande ville. Sol savait que ces images n'appartenaient pas à un rêve, mais qu'elles étaient tirées du premier et du second holocauste. Et il comprit la réponse avant que la voix dans sa tête ne reprenne. Les parents se sont déjà offerts en sacrifice, et il a été accepté. Nous avons dépassé ce stade.
Mais que veux-tu alors ? Que veux-tu donc ?
Il n'eut que le silence pour réponse. Il se remit debout, dans la clarté aveuglante du soleil, et faillit tomber. Un gros oiseau noir décrivit des cercles au-dessus de sa tête, ou bien dans sa vision. Il secoua le poing en direction du ciel couleur d'acier de canon.
« Tu te sers des nazis comme instrument, des fous, des monstres. Tu n'es toi-même qu'un foutu monstre. »
Non. La terre bascula et Sol tomba sur le côté contre le tranchant de plusieurs cailloux pointus. Il avait l'impression de s'adosser à un mur hérissé de tessons de bouteilles. Un caillou de la taille de son poing lui meurtrissait la joue.
La seule réponse correcte pour Abraham était l'obéissance, pensa Sol. D'un point de vue éthique, Abraham était lui-même un enfant. Tous les hommes l'étaient à cette époque-là.
La réponse correcte pour les enfants d'Abraham était de devenir des adultes et de s'offrir eux-mêmes en sacrifice à la place de leur père.
Mais quelle est la bonne réponse dans notre cas ?
Il n'y eut pas d'écho à sa pensée. La terre et le ciel cessèrent de tourner. Au bout d'un moment, il se releva en tremblant, essuya le sang et la poussière sur sa joue, puis reprit lentement le chemin de la vallée.
« Non, » dit-il à Sarai. « Nous n'irons pas sur Hyperion. Ce n'est pas la bonne solution. Tu préfères que nous ne fassions rien, alors ?»
Les lèvres de Sarai étaient blêmes en répondant, mais sa voix était ferme et bien contrôlée.
« Non,
Je veux simplement éviter de faire ce qu'il ne faut pas. » Elle souffla bruyamment, puis fit un geste du bras en direction de la fenêtre où leur petite fille de 4 ans était visible, dans la cour, entourée de ses jouets.
« Tu crois qu'elle a le temps d'attendre indéfiniment que nous discutions sur la bonne ou la mauvaise solution ?»«
Assieds-toi, Sarai. » Elle demeura debout. Il y avait du sucre en poudre sur le devant de sa robe beige en coton. Il se souvint soudain de la jeune femme nue surgissant dans le sillage phosphorescent de l'île mobile d'Alliance Maui.
« Il faut que nous fassions quelque chose, » dit-elle.
« Nous avons consulté une 100aine d'experts médicaux et scientifiques. Elle a été examinée, testée, tripotée, torturée dans des 12aines d'hôpitaux. J'ai voulu demander conseil au prêtre Grichtek de tous les mondes du Retz. Ils m'ont fermé la porte au nez. Melio et les autres spécialistes d'Hyperion à l'université de Reichs affirment qu'il n'y a rien dans la doctrine Grichtek qui évoque de près ou de loin la maladie de Merlin. Les indigènes d'Hyperion n'ont aucune légende de ce genre qui puisse nous orienter vers un remède. Les recherches sur le terrain ont duré 3 ans et tout ont échoué. Aujourd'hui, elles sont interdites. L'accès au tombeau du temps n'est réservé qu'aux soi-disant pèlerins. Même un simple visa est presque impossible à obtenir. Sans compter que le voyage pourrait être fatal à Rachel.
Il s'interrompit, haletant, et toucha de nouveau le bras de Sarai.
Je regrette d'avoir à le répéter, mais je crois que nous avons fait tout ce qui pouvait être fait.
Ce n'est pas assez, lui dit Sarai. Pourquoi ne pas y aller en tant que pèlerin ?
Il croisa les bras de frustration.
L'église Grichtek choisit ses victimes sacrificielles parmi des milliers de volontaires. Le Retz est rempli de fanatiques stupides et suicidaires. Peu d'entre eux reviennent de ce pèlerinage.
Cela ne prouve-t-il pas déjà quelque chose ?
Souffla Sarai en se penchant en avant.
Il y a quelqu'un, ou je ne sais quoi, qui s'acharne sur ces pauvres gens.
Des pillards ou bien des bandits,
c'est le golem,
fit-elle en secouant la tête.
Tu veux dire le Gritch, le golem,
insista Sarai.
Le même que celui que nous voyons dans notre rêve.
Je n'ai jamais vu de golem,
fit Sol mal à l'aise.
De quoi parles-tu?
Ses yeux rouges qui brillent dans le noir. C'est le golem que Rachel a entendu quand elle était à l'intérieur du sphinx.
Comment sais-tu ce qu'elle a pu entendre?
C'est dans le rêve, juste avant le moment où nous entrons dans l'endroit où le golem nous attend.
Nous n'avons pas fait le même rêve dans ce cas.
Sarai, Sarai, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout cela avant?
Je croyais que j'étais en train de devenir folle,
soupira-t-elle. Songeant à ses conversations secrètes avec Dieu, Sol entoura du bras la taille de sa femme.
Oh, Sol,
gémit-elle en se serrant contre lui.
« Cet endroit fait si mal à regarder. Cette impression de solitude est si écrasante. »
Il l'embrassa sur la joue. Ils avaient essayé de rentrer chez eux, c'était toujours pour eux le monde de Barnard, une 30 de fois pour rendre visite à leurs amis et à leur famille. Mais chaque fois, leur plaisir avait été gâché par une invasion de touristes et de médiatiques. Ce n'était la faute de personne. Les nouvelles voyageaient de manière quasi instantanée à travers la méga-infosphère de 160 mondes du Retz. Pour assouvir sa curiosité, il suffisait d'insérer sa carte universelle dans la rainure d'un Terminex et de traverser une porte distance. Ils avaient bien essayé d'arriver à l'improviste en voyageant incognito, mais ils n'avaient pas l'entraînement d'un agent secret et leurs efforts eurent des résultats pitoyables. Moins de 24 heures après leur arrivée dans le Retz, ils étaient assiégés. Les instituts de recherche et les grands centres médicaux fournissaient des écrans de sécurité pour ces visites, mais les amis et la famille en souffraient. Rachel était toujours à la une.
« Nous pourrions inviter encore Theta et Richard, »
commença Sarai.
« J'ai une meilleure idée, » lui dit Sol. « Vas-y toi, Sarai.
Tu as envie de revoir ta sœur. » Mais je sais que tu aimerais aussi te retrouver chez toi,
retrouver les odeurs des champs et les couchers de soleil là où il n'y a pas d'iguane.
Pars. Partir toute seule. Je ne pourrais pas abandonner Rachel.
Ridicule. Ce serait la 2e fois en 20 ans, presque 40 si l'on compte les jours bénis d'avant.
2 fois, même en 20 ans,
je ne crois pas que l'on puisse parler d'abandon. Je me demande même comment notre famille a pu rester demeurée unie si longtemps, après être restée en vase clos pendant toutes ces années. Sarah gardait les yeux obstinément baissés, apparemment perdus dans la contemplation de la nappe.
« Et tu crois que les médiatiques ne me retrouveraient pas ?»«
Je pense que c'est uniquement à Rachel qu'ils s'intéressent. Mais s'ils en ont après toi, tu pourras toujours rentrer au bout d'une semaine après avoir rendu visite à tout le monde. »«
Une semaine ? Je ne pourrai jamais. » »«
Bien sûr que tu le peux. Tu le dois même. » Cela me donnera l'occasion de passer un peu plus de temps avec Rachel, et lorsque tu rentreras, les batteries rechargées, je m'occuperai égoïstement de mon bouquin.
Celui sur Kierkegaard ?
Non, quelque chose d'autre que j'ai dans la tête depuis un moment et que je compte intituler « Le problème d'Abraham ».
Un peu maladroit comme titre,
fit remarquer Sarai. Le problème n'a rien d'élégant non plus. Va faire tes valises maintenant. Nous t'accompagnerons demain à la Nouvelle Jérusalem pour que tu puisses te distransporter avant le Shabbat.
« Je vais y réfléchir, »
dit-elle d'un air peu convaincu. « Tu vas faire tes valises, » répéta Sol en la serrant dans ses bras. Quand il la lâcha, il lui avait fait faire un demi-tour complet sur elle-même, de sorte qu'elle faisait maintenant face au couloir et à la porte de la chambre. « Va, » dit-il, « et quand tu reviendras, j'aurai trouvé un moyen d'agir. »
« Tu me le promets ?»
demanda Sarai en se retournant sur le seuil.
« Je te le promets, »
dit-il en la regardant d'un air solennel. « Je trouverai un moyen avant que le temps ne détruise tout. Aussi vrai que je suis son père, je jure de trouver un moyen. » Elle hocha la tête, plus rassurée qu'il ne l'avait vue depuis des mois.
« Je vais faire mes valises, » dit-elle.
Le lendemain, après être rentrée de la Nouvelle Jérusalem avec Rachel, Sol sortit arroser leur maigre pelouse, tandis que l'enfant jouait sagement à l'intérieur. Lorsqu'il rentra, la lumière rosée du couchant donnait au mur des reflets évoquant le calme chaud et immense de l'océan. Mais Rachel n'était pas dans sa chambre, ni dans aucun de ses endroits habituels. « Rachel ?» N'obtenant pas de réponse, il se prépara à sortir alerter les voisins, mais entendit soudain un faible bruit du côté du placard où Sarai rangeait des affaires de toutes sortes. Il ouvrit doucement la porte. Elle était là, sous les vêtements de la penderie. Le sol était jonché de photos et de pastillolo qui la représentaient étudiante, à la maison, le jour de son départ pour l'université, ou bien sur Hyperion, au pied d'une montagne sculptée. Le père Soc de travail de Rachel débitait un enregistrement à voix basse sur les genoux de la petite fille. Le cœur de Sol se serra quand il entendit la voix familière et assurée de la jeune femme.
« Papa ?»
dit la petite fille assise par terre, sa voix aiguë s'élevant comme l'écho effrayant de celle du père Soc.
« Tu ne m'avais jamais dit que j'avais une sœur ?»«
Tu n'en as pas, ma chérie. » Elle plissa le front.
« C'est maman alors, quand elle était bien moins vieille ?»« C'est impossible. Elle dit qu'elle s'appelle Rachel, elle aussi. »
Comment ? Je t'expliquerai, lui dit Sol en s'apercevant tout à coup que l'holophone était en train de sonner dans la salle de séjour.
Attends-moi un instant, ma chérie. Je reviens tout de suite.
L'image qui se forma au-dessus de la fosse était celle d'un homme qu'il n'avait jamais vu avant. Il n'activa pas son propre imageur, pressé de se débarrasser de l'intrus.
Oui, fit-il d'une voix brusque. H. Weintraub ? « Vous êtes bien H. Weintraub du monde de Barnard, actuellement dans le village de Dan, sur Hébron ?»
Il allait couper la communication, mais se ravisa. Leur code d'accès n'était pas sur la liste officielle. Il arrivait qu'en représentant les appels de la Nouvelle Jérusalem, mais les communications de l'extérieur étaient rarissimes. Et il s'avisa, soudain, la gorge serrée, que le soleil était déjà couché et que c'était le jour du Shabbat. Seuls étaient autorisés les appels urgents.
« Oui, » répondit-il.
« H. Weintraub, » fit l'homme dont le regard se perdait par-delà les épaules de Sol. « Un très grave accident vient de se produire. » Lorsque Rachel ouvrit les yeux, son père était assis au bord du lit. Il semblait épuisé. Ses yeux étaient rouges et ses joues étaient couvertes d'un duvet gris qui dépassait les limites de sa barbe.
« Bonjour, pa. »
« Bonjour, ma colombe. »
Elle regarda autour d'elle, battant les paupières.
Quelques-unes de ses poupées étaient là, avec ses jouets favoris, mais ce n'était pas sa chambre. La lumière était différente. L'air était différent. Son papa n'était pas le même.
« Où sommes-nous ? »
demanda-t-elle.
« Nous sommes partis en voyage, ma chérie. »« Dans quel endroit ? » ?»«
Ça n'a pas d'importance pour le moment. »« Debout, mon bébé. Ton bain t'attend. » »« Et il faut nous préparer ensuite. » Une robe noire qu'elle n'avait jamais vue était étalée au pied du lit. Elle la regarda, puis se tourna de nouveau vers son père.
« Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Où est maman ?»
Il lui caressa la joue. C'était le troisième matin depuis l'accident. L'enterrement avait lieu aujourd'hui. Il le lui avait dit chacun des jours précédents, parce qu'il ne pouvait pas imaginer de lui mentir. C'eût été une trahison ultime, à la fois envers Rachel et Sarai. Mais il ne savait pas s'il aurait le courage de le refaire.
« Il y a eu un accident !»
commença-t-il d'une voix rauque de douleur.
« Maman est morte. Nous allons lui dire au revoir au cimetière aujourd'hui. »
Il se tut. Il savait qu'il faudrait une minute entière à Rachel pour accuser le coup. Le premier jour, il ignorait si une petite fille de 4 ans était capable de bien saisir le concept de la mort. Aujourd'hui, il savait que Rachel en était capable. Un peu plus tard, tandis qu'il serrait dans ses bras l'enfant sanglotante, Sol essaya de comprendre l'accident qu'il lui avait décrit en quelques mots. Les VEM étaient de loin le moyen de transport individuel le plus sûr que l'humanité eût jamais inventé. Leur système de sustentation pouvait avoir des défaillances, mais même ainsi, la charge résiduelle des générateurs EM était suffisante pour permettre à la cabine de descendre au sol en toute sécurité à partir de n'importe quelle altitude. La conception de base des équipements anti-collision des VEM n'avait pas changé depuis des siècles. Elle était jugée à toute épreuve. Pourtant, tous les systèmes furent inefficaces. En l'occurrence, il s'agissait d'un jeune couple enviré dans un VEM volé, en dehors de tous les couloirs de circulation, évoluant à la vitesse de Mach 1,5, avec toutes ses lumières et tous ses transpondeurs éteints pour échapper à la détection. Un hasard extraordinaire avait fait que le vieux Viken de la tante Theta descendait au même moment vers l'aire de parking de l'opéra de Bussard. Outre Sarai, la tante Theta et les deux jeunes occupants de l'appareil volé, la collision avait fait 3 autres victimes touchées par des fragments des VEM qui avaient été projetés jusqu'à l'intérieur de l'opéra lui-même.
Sarai. Est-ce que maman reviendra un jour avec nous ?
Demanda Rachel entre 2 sanglots. Elle avait posé la même question les 2 jours précédents.
Je ne sais pas, ma chérie, lui répondit Sol.
Et il était sincère. Les funérailles eurent lieu au cimetière de la famille, dans le comté de Cates, sur le monde de Barnard. La presse n'envahit pas le cimetière, mais des médiatiques survolèrent les arbres qui se trouvaient en bordure et se pressèrent contre les grilles noires comme une sinistre et dangereuse marée humaine. Richard demanda à Sol de rester quelques jours chez lui avec Rachel, mais c'était une trop lourde épreuve à infliger au paisible fermier si jamais la presse s'en apercevait. Il se contenta de donner tristement l'accolade à son beau-frère, prononça quelques mots face à la meute des médiatiques de l'autre côté de la grille, et retourna sur Hébron avec sa petite fille accablée et muette.